spéciale.
Édition spéciale.
Grande interview sur Radio Intégration.
www.radiointégration.com.
Les questions relatives à l'intégration en Afrique centrale.
L'évolution du processus de l'intégration. Libre Antenne, c'est sur Radio Intégration.
Madame, bonjour, messieurs, salut. Bienvenue à cette émission de Grande Interview. Grande Interview, c'est cette émission de 52 minutes pour vous donner des connaissances et le recul nécessaire pour comprendre et analyser l'actualité qui fait notre quotidien. C'est un cadre d'analyse approfondie des questions qui foisonnent et bouillonnent dans les consciences des uns et des autres. Grande Interview a l'honneur d'accueillir un éminent enseignant de nos universités, à la fois écrivain célèbre, en la personne de Monsieur Jean-Claude Djereke. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir Marie-Noël et bonsoir à ceux et celles qui nous font l'honneur d'écouter cette interview.
Comme je vous le disais, nous allons recevoir aujourd'hui un enseignant de l'université de Temple aux États-Unis qui nous fera l'honneur de se présenter à notre micro.
Je m'appelle Jean-Claude Djereke, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Ma seconde patrie, c'est le Cameroun. J'aime l'Afrique et je me bats depuis plusieurs années pour la vraie indépendance de l'Afrique, pour une Afrique libre et souveraine. J'ai eu la chance de circuler en Afrique, du nord au sud, de l'ouest à l'est. J'ai aussi eu la chance de visiter l'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, Centrafrique, le Tchad. Et donc, je suis un peu panafricain. Je crois au panafricanisme, c'est-à-dire à l'unité et à la solidarité des Africains et des Noirs en général. J'enseigne ici aux États-Unis. Et puis, accessoirement, je suis un apprenti écrivain. Un apprenti écrivain, c'est-à-dire que j'aime beaucoup écrire, j'aime l'écriture. Et donc, à mes heures libres, il m'arrive d'écrire. Et j'écris essentiellement des essais. J'en ai écrit seulement une vingtaine depuis 2001. Voilà, donc j'aime les voyages. Et j'aime rencontrer les hommes et les femmes. J'aime échanger avec eux. Voilà ce que je pourrais dire de ma présentation.
La carte de visite n'est pas nouvelle chez les auditeurs fidèles de Radio Intégration. Alors dites-nous Jean-Claude, pourquoi nous faites-vous cet honneur ici à Radio Intégration?
Mais d'abord pour deux raisons. La première, c'est que le Cameroun est ma seconde patrie. C'est le premier pays africain que j'ai visité. Et avant d'arriver au Cameroun, en 1982, j'étais tombé amoureux de ce pays à cause d'écrivains comme Mongo Betty, parce que j'avais lu et aimé Ville cruelle, Le pauvre Christ de Bomba, Mission terminée, parce que j'avais aimé des auteurs comme Ferdinand Oyonnax, Jean-Ikele Matiba, Jean-Marc Ella, Fabien Ibusi Boulaga, Angèle Bernvin, le père Merad Ebga et d'autres. Et donc c'est ce Cameroun-là vraiment dont je suis tombé amoureux. Et donc ça c'est la première raison. La seconde c'est que ce qui m'a frappé dans le journal L'Intégration, c'est la liberté de ton de ce journal. C'est un journal qui a un esprit critique, qui aborde les sujets sans langue de bois. Et moi, ça me convient parfaitement parce que c'est un peu ça, la formation que j'ai reçue, la formation jésuite. Hein, tout à l'heure, j'ai cité les Ebga, Mveng, Jean-Marc Ella. Je crois que ces gens-là, quelque part, ils m'ont contaminé, voilà, avec cet esprit critique. Et j'apprécie ce ton critique dans le journal Intégration.
Alors, je le rappelle, la question d'aujourd'hui concerne le prêtre et la politique en Afrique. Pouvez-vous nous en dire quelque chose là-dessus, Jean-Claude?
J'ai beaucoup de choses à dire sur la question, parce que, tenez-vous bien, ça a été le sujet de mon mémoire de maîtrise en théologie politique à Rome, en 98. J'avais travaillé avec un jésuite allemand, et mon sujet de mémoire, c'était l'engagement politique du clergé catholique en Afrique noire. Et mon directeur m'avait encouragé à publier ce travail de mémoire, ce qui se fit, puisque le mémoire fut publié en 2001 dans la collection Chrétien Liberté aux éditions Cartala. La collection Chrétien Liberté était dirigée à l'époque par un prêtre dominicain, René Luneau. Et quand je lui avais envoyé le manuscrit, il était vraiment enthousiaste, il m'a dit je publie votre texte parce qu'il est beau, il est très très riche. Voilà, donc c'est un sujet vraiment qui me passionne, qui m'a passionné à l'époque et qui continue de me passionner. Donc mon bouquin est un livre de 304 pages hein, qui est sorti chez Cartala en 2001 et ça a été aussi mon sujet de thèse à la Sorbonne en 2008. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Alors la première chose que je voudrais dire, et à mon avis c'est la question centrale, quel type de politique le prêtre peut-il faire en Afrique? Et là, je pense que on peut aller trouver la réponse chez le jésuite italien Bartolomeo Sorge. Le père Sorge a travaillé pendant longtemps dans la revue jésuite qui s'appelle Civilita Cattolica, qui est un peu ce que la revue Études, revue jésuite, est en France. Voilà, c'est un peu le pendant des études en Italie. Donc, je crois qu'il a dirigé cette revue. Et puis après, il allait travailler dans la lutte contre la mafia. Et voilà, donc Sorge a écrit un ouvrage en 1996 qui s'appelle La civiltà dell'amore, c'est-à-dire la civilisation de l'amour. Et c'est dans ce livre qu'il fait la distinction entre la politique avec grand P et la politique avec petit P.
Quand les évêques dénoncent dans leurs lettres pastorales le tribalisme, les détournements de fonds publics, la violation des droits de l'homme ou les élections truquées, s'immiscent-ils dans la politique?
Donc quand les prêtres et les évêques dans leurs lettres pastorales dénoncent le tribalisme, le tripatouillage de la Constitution ou les élections truquées, ils sont dans leur rôle. On ne peut pas dire qu'ils font la politique politicienne. Hein, parce que le but de ces interventions, ce n'est pas la prise du pouvoir. Les évêques, quand ils dénoncent, leur intention n'est pas de prendre le pouvoir. Et malheureusement, certains hommes politiques ne le comprennent pas. Ils auraient préféré que les prêtres, les évêques restent dans la sacristie, c'est-à-dire qu'ils ne se mêlent pas de ces questions-là, qu'ils ne parlent pas de justice, hein, de liberté. Eh bien, ils ont tort. Ils ont tort. Je crois que les prêtres, les évêques, ils sont d'abord citoyens. Ils sont citoyens, ils vivent dans la cité. Donc tout ce qui se passe dans la cité, ça les intéresse, ça les concerne forcément. Et maintenant, en tant que pasteur, ce n'est pas seulement un droit, mais un devoir. Hein? Lorsque les richesses dans un pays sont confisquées par un petit groupe, hein, de copains et de coquins, les évêques, non seulement ont le droit, mais ils ont le devoir de le dénoncer. Lorsque, dans un pays, hein, un seul parti peut manifester, marcher, tenir des meetings, et les partis de l'opposition ne peuvent pas le faire, les évêques doivent parler, ils ne doivent pas se taire. Vous voyez? Donc, ils sont dans leur rôle. Ils ne font pas la politique politicienne, mais ils font la politique avec grand P. C'est-à-dire, ils participent à la bonne marche de la cité.
Radio Intégration.
Radio Intégration.
La voix des communautés.
Jean-Claude, je m'avais te posé cette question comme ça. Penses-tu qu'un prêtre peut être député, maire, ministre ou président de la République?
Ma réponse est non, parce que le droit canon, le code de droit canonique de 1983 interdit clairement aux prêtres, aux évêques et aux diacres d'exercer la charge de député, de maire, de ministre et de président de la République. Parce que un prêtre ou un évêque qui serait député, maire, ministre ou président de la République diviserait ipso facto la communauté dans laquelle on trouve des hommes et des femmes de tous les bords politiques. Et un prêtre donc qui serait ministre ou député ne serait plus perçu comme l'homme de tous, mais comme l'homme d'un clan, l'homme d'un groupe. Or, le prêtre, il est là pour rassembler la communauté, pour l'unité de la communauté. Voilà, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle l'Église ne veut pas que le prêtre soit député ou ministre, c'est que ces tâches-là sont réservées aux fidèles laïcs. Quand vous lisez le code de droit canonique, les canons 285, paragraphes 1 et 3, le canon 287, paragraphe 2, vous voyez la position de l'Église. Bon, cela dit, il y a eu dans l'histoire des exceptions. C'est-à-dire que l'Église a accepté que tel ou tel prêtre soit député ou maire. Et en Afrique, au début des années 90, on a connu des évêques qui ont présidé la conférence nationale souveraine. C'est arrivé au Bénin, c'est arrivé dans les deux Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, c'est arrivé au Togo, c'est arrivé au Gabon. Mais ce sont des exceptions. C'est-à-dire que ces évêques-là, le Vatican a accepté qu'ils jouent ce rôle pour un temps précis. Hein, et que, assez vite, ils retournent à leur mission première. Voilà. Donc, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Hein, en France, l'abbé Pierre a été député. Hein, et puis, bon, après, il a abandonné ce travail-là. Donc, il y a des exceptions. Mais la règle de l'Église, c'est que être ministre, être député, être maire, être président de la République, ça revient aux fidèles laïcs et non aux prêtres.
Que dit le droit canon sur le prêtre et la politique?
Oui, il faut que le clergé parle. Il faut qu'il parle quand les femmes sont violées, hein, comme en République démocratique du Congo. Lorsque des pays étrangers, n'est-ce pas, mettent leurs pieds sur le cou de l'Afrique, il faut qu'ils parlent. Il ne faut pas que les gens se disent, non, moi, comme je vais avoir le visa belge ou le visa français, je ne peux pas critiquer la France ou la Belgique, je ne peux pas critiquer les États-Unis. Non, tous ces pays-là, qui sont parfois derrière les guerres, derrière le terrorisme, les évêques doivent avoir le courage de les dénoncer, comme le pape l'a fait la dernière fois lors de sa visite à Kinshasa. Il a dit, n'étouffez pas l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Vous voyez, donc le grand patron lui-même, lui-même a mis les pieds dans le plat. Alors, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que on ferme le robinet, qu'on leur coupe les vivres, qu'on leur donne plus les bons d'essence. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Un prêtre doit parler. Il doit parler quand, dans un pays, voilà, les médias publics sont confisqués, n'est-ce pas, par un seul parti. Lorsque les meetings, les marches ne sont réservés qu'aux militants d'un seul parti. Les évêques doivent parler. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il va y avoir des élections en 2025. Les évêques disent quoi? Ils disent quoi? Hein? J'entends que quelqu'un veut briguer un quatrième mandat. C'est le moment de parler. Il faut qu'ils parlent maintenant. Il ne faut pas qu'ils attendent demain quand ce gars-là va être candidat et que ça va provoquer des troubles. Ce n'est pas à ce moment-là qu'ils vont dire « Prions pour la paix, jeûnons pour la paix ». Non, c'est trop tard, ça. C'est maintenant qu'il faut parler.
Y a-t-il des prêtres africains qui se sont engagés dans la politique?
Oui, il y a eu au début des années 60 au moins deux prêtres qui se sont engagés dans la politique directe, qui ont assumé des charges publiques. Je pense par exemple à l'abbé Philbert Youlou du Congo-Brazzaville. Je pense aussi à l'abbé Barthélemy Boganda en Centrafrique. Voilà, donc ce sont les cas les plus connus. Au Sénégal, on a eu un prêtre, l'abbé Diamakoum Senghor de la Casamance, qui était leader d'un mouvement qui revendiquait l'indépendance de la Casamance. Le mouvement s'appelait le MFDC, c'est-à-dire le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance. Donc c'est, je crois, un mouvement qui voulait couper la Casamance, n'est-ce pas, du Sénégal. Et donc, finalement, ce mouvement est devenu, comment on dit ça, violent. Hein, les gens qui étaient dans ce mouvement étaient armés. Voilà. Et donc, tout ça, c'est la politique, hein, la politique politicienne. Parce que, bon, quand on entre dans un mouvement armé, c'est pour prendre le pouvoir et l'exercer. Hein? Alors, Diamakoum Senghor a été comparé par beaucoup de gens. On l'a comparé à au Colombien, au prêtre colombien Camilo Torres, qui était un guérillero qui est entré dans la guérilla parce que il ne supportait pas l'injustice dans son pays. Mais Camilo Torres, il est mort. Il est mort, n'est-ce pas, dans la guérilla, dans la brousse. Diamakoum Senghor, lui, il n'est pas mort en brousse, mais il est mort sans que son vœu, n'est-ce pas, de voir la Casamance être un État indépendant, ce vœu-là n'a pas été réalisé de son vivant.
Tout savoir sur Radio Intégration.
Rendez-vous sur le site
www.journalintégration.com
et découvrez toute notre actualité.
Toute notre actualité.
Nos émissions.
Nos émissions.
Notre équipe et nos programmes.
Radio Intégration, la voix des communautés.
Merci pour ce privilège, j'allais dire cet honneur que tu accordes à Radio Intégration. Ça a été un réel plaisir de t'avoir sur notre plateau, Jean-Claude.
J'étais content de participer à cet échange avec Radio Intégration et j'espère avoir apporté un peu de lumière aux nombreux auditeurs de cette radio. Ce que je voudrais souligner à la fin de cet échange, c'est que le prêtre a une fonction tribunitienne ou tribunicienne. Dans tribunicienne, il y a le mot tribun. Voilà, en termes plus clairs, je veux dire que le prêtre ou l'évêque, sa première arme ou la première façon pour lui de participer à la bonne marche de la cité, c'est la parole, c'est en prenant la parole. C'est la prise de parole, comme Jésus. Jésus a constamment parlé. Il a parlé aux scribes et pharisiens. Il a parlé aux docteurs de la loi. Il a parlé à Hérode Antipas, qu'il a traité de renard. Jésus a parlé constamment. Donc le prêtre doit parler. Il doit parler pour dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean-Baptiste, les Osée, les Amos, les Jérémie, les Ézéchiel, les Nathan. Il faut qu'ils parlent. Parce que la parole a une vertu thérapeutique. Rappelez-vous, Matthieu 8, 8, le centurion de l'armée romaine disant à Jésus, « Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et le texte nous dit que le serviteur du centurion fut guéri. Et c'est cette parole que nous avons reprise à la messe. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. » La parole guérit. Mais encore faut-il que des gens aient le courage de la prononcer à temps et à contre-temps. C'est vrai, on peut avoir des amis dans le gouvernement, et ce n'est pas un crime. Jésus avait des amis riches, des amis puissants, comme Zachée, comme Matthieu, le collecteur d'impôts. Mais ça ne l'a jamais empêché de dire ce qu'il pense. Et c'est ce qu'on demande aux évêques et aux prêtres, avoir des émotions.
Madame, Monsieur, c'était grande interview de ce jour. Nous avons reçu Jean-Claude Djereke, un éminent enseignant de l'université de Temple aux États-Unis, qui nous a entretenu au sujet du prêtre et de la politique en Afrique. Au micro de la présentation, j'étais Marie-Noël Etungu, assistée de Josué Nabral à la technique, qui lui-même a un assistant aujourd'hui, en la personne du stagiaire Mveng Meunier Albert. Nous vous disons au revoir et à bientôt sur le plateau de Radio Intégration.
Édition spéciale.
Grande interview sur Radio Intégration.
www.radiointégration.com.
Les questions relatives à l'intégration en Afrique centrale.
L'évolution du processus de l'intégration
en Afrique centrale.
Libre Antenne, c'est sur Radio Intégration.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.